Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com. Comme chaque mercredi entre 16h et 16h30, vous retrouvez le magazine Campus Lille Info, un magazine qui vous informe de l'actualité de l'Université de Lille. Le 21 mars a été proclamée Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale en 1966 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans ce cadre, une semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme se déroule du 18 au 24 mars, donc la semaine prochaine. On va parler de cette semaine d'action et d'information avec notre invité qui s'appelle M. Amadou Ball, qui est médiateur de l'Université de Lille et référent racisme, antisémitisme et discrimination. Bonjour donc Amadou Ball.
Bonjour.
Alors, on se connaît un peu.
Tout à fait.
Pour définir un petit peu pourquoi. En fait, on va peut-être même se tutoyer parce que tu étais, à un moment donné, porteur d'une émission sur Radio Campus. Donc, tu connais très bien cette radio.
Absolument.
Et les problèmes dont on va parler aujourd'hui, bien sûr, tu les as depuis longtemps appréhendés. Et évidemment, sur la radio aussi, tu as pendant longtemps amené ta réflexion sur ces domaines.
Tout à fait. On peut dire que les émissions que je faisais et l'esprit de Radio Campus sont parfaitement conformes à l'émission que nous allons faire aujourd'hui. Effectivement, moi j'ai animé une émission qui s'appelait Awana Africa, donc qui était consacrée à l'Afrique, et puis une autre émission que j'ai animée un peu plus tôt et qui s'appelait Une heure avec, où je, comme tu le fais, je recevais donc des invités avec lesquels j'ai changé de thèmes divers et variés en fonction de leur centre d'intérêt, de leur qualité, quelquefois de leur activité professionnelle, et ça durait une heure, un peu plus du double de ce que nous allons faire aujourd'hui. Et je suis particulièrement heureux de retrouver Radio Campus plusieurs années après.
Voilà, bien pour nous aussi, ce combat contre le racisme et l'antisémitisme est évidemment au cœur de nos préoccupations quotidiennes, pas seulement durant une semaine.
Tout à fait, tout à fait. Ben, c'est un combat qu'il faut mener tout le temps, bien entendu. Alors la semaine, c'est peut-être aussi simplement pour marquer un peu plus cette thématique, mais il est évident que il ne faut pas la concentrer. C'est un peu comme le 8 mars, fête des femmes, quoi. Donc je pense que c'est une action qu'il faut non seulement mener tout le temps, mais qu'il faut mener intensément et qu'il faut mener de façon d'autant plus décisive que, comme on le disait tout à l'heure en antenne, on perçoit quand même des signes plus qu'inquiétants sur ces thématiques-là de résurgence, de discours antisémites, racistes, d'exclusion et des discriminations. Donc la sensibilisation est d'autant plus importante que, bah, d'abord pour le principe et puis ensuite aussi pour faire face à cette menace qui pèse sur nos sociétés pour des raisons diverses et variées, mais bon, que l'on connaît et qui peuvent tenir à des situations économiques, à des replis identitaires, à des peut-être aussi à des illusions entretenues. Voilà.
C'est vrai que depuis quelques années, on va dire, peut-être même une année, on sent une certaine montée en puissance de phénomènes racistes qui existaient déjà au préalable, mais qu'on sent peut-être se démultiplier plus largement qu'avant. Donc, est-ce que dans ce cadre-là, puisque toi tu interviens dans une université, l'université est un peu différente que le monde qui l'entoure est un peu protégé d'une certaine manière, ou est-ce que on peut dire que le racisme, l'antisémitisme s'exerce ou existe également dans une université où les gens sont censés avoir une plus grande ouverture d'esprit et une certaine intelligence?
Moi, à chaque fois que j'ai assisté à des au-delà de mon constat personnel, à chaque fois que j'ai assisté à des réunions ou à des séminaires sur cette thématique-là, il y a une idée qui revient et qui me paraît juste. C'est de dire, il ne faut pas considérer que l'université est un sanctuaire. C'est-à-dire considérer que l'université, parce que c'est un lieu du savoir, est à l'abri de ce qui se passe dans la société, peut être une erreur. Donc on retrouve, alors sous des formes différentes, peut-être suivant des manifestations différentes, on retrouve au sein de l'université ce qui se passe dans la société, puisqu'après tout, l'université est constituée aussi de personnes qui ne sont pas hors sol, qui vivent dans la société, qui pour certains d'entre elles peuvent relayer au sein de l'université le discours ambiant. Ceci étant, l'université est en effet l'endroit le moins attendu pour voir se perpétuer ce genre de considérations, de discours ou d'idéologie avec d'énormes guillemets, parce que c'est un lieu de savoir, c'est un lieu d'échange. En tout cas, c'est censé être un lieu de savoir, d'échange et d'ouverture. Donc on peut effectivement considérer qu'il est anormal, là aussi avec d'énormes guillemets, que l'on retrouve au sein de l'université des discours d'exclusion, des discours de repli, des discours de différenciation sur des bases raciales, des discours de préjugés, alors que précisément ce qu'on apprend à l'université, c'est à déconstruire ce type de discours dans l'université. Il y a quand même universalité aussi. Ceci étant, il faut être vigilant. Il y a des populations plurielles dans l'université, ne serait-ce que parce que il y a des personnels enseignants, il y a des personnels administratifs, il y a des personnels techniques, donc il y a une diversité de personnels, il y a surtout des citoyens. Et puis il y a des personnes, des êtres humains, avec leur éducation, leur parcours antérieur, leurs convictions, quelquefois. Et le tout, c'est justement que l'université, sa direction, sa personnel et ses instances veillent à ce que on retrouve au sein de cette instance particulière un discours républicain, un discours respectueux des différences, respectueux des croyances aussi, respectueux éventuellement des identités, mais en tout cas respectueux des valeurs. Voilà.
Alors évidemment, dans cette université, il y a beaucoup d'étudiants, 70 000 on va dire pour l'université de Lille, pour donner un gros chiffre comme ça, d'une très grande diversité, et c'est souvent d'ailleurs pour les universités aussi une fierté d'avoir une grande diversité de provenance des étudiants.
Tout à fait. Diversité de provenance, diversité de parcours, diversité culturelle. Et nous avons quand même cette chance en France d'accueillir des étudiants venus d'horizons culturels différents et de les traiter de manière égale, de les traiter sans préjugés, de faire en sorte que au sein de l'université il n'y ait pas de cloison, qu'il n'y ait pas comme disait tout à l'heure de préjugés, qu'il n'y ait pas de rejet sur des bases douteuses, qu'elles soient raciales, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient religieuses. Enfin voilà, donc c'est un lieu de brassage, l'université, c'est un lieu de savoir. Et donc ça, c'est quand même une valeur qu'il faut préserver. Ce qui ne veut pas dire encore une fois que l'université soit un sanctuaire. On peut retrouver dans le débat universitaire, effectivement, sous des formes peut-être feutrées, quelquefois, des discours qui ont cours dans la société. Et donc, de manière générale, les discours qui ont cours dans la société, ben, ce sont aussi des discours qui peuvent charrier des valeurs, là, avec des guillemets, plus ou moins, qui peuvent charrier des valeurs peut-être discutables. Mais en tout cas, la vocation de l'université, c'est de faire en sorte que l'égalité, que la non-discrimination, que la tolérance, que l'universalité, que toutes ces valeurs-là soient dominantes, qu'elles prévalent, plutôt que des valeurs d'exclusion ou de repli ou de rejet.
Alors, il y a sur l'Université de Lille des temps forts, au-delà de cette semaine-là, qui permettent aux gens d'échanger. Je pense à Mixité, par exemple, un festival qui revient en général tous les ans.
Tout à fait.
Peut-être cette année, ce sera en avril-mai, je ne sais plus, enfin.
En avril, oui. Donc, alors, l'université sera représentée, donc je pense que même que ça se passe sur pas loin d'ici. Alors, nous avons actuellement au sein de l'université de Lille, puisque maintenant nos trois universités depuis janvier 2018 n'en font plus qu'une, donc la fusion des trois universités a eu lieu. Nous avons au sein de l'université de Lille un certain nombre d'instances, comme une maison de la médiation, comme le médiateur par exemple que je suis. Alors, je suis également référent racisme, antisémitisme. Nous avons des vice-présidente chargée de la vie des campus, et dont les missions ont à voir avec cette manifestation, et l'université sera d'une manière ou d'une autre sera représentée au sein de ces stands, et où on relaiera son action dans les domaines de la lutte contre les discriminations, dans de la lutte pour la tolérance, la lutte pour l'inclusion. Donc, alors après, sous des modalités à voir, parce que c'est pas forcément non plus les manifestations théoriques ou autres, ça peut être sous une forme ludique, quelquefois des mises en situation, on verra sous quelle modalité, mais l'université a vocation et elle sera présente.
Alors, présenter les cultures, représenter même des cultures, on a tendance aussi à mettre ça en perspective, parfois avec le communautarisme qui peut exister pour des raisons peut-être pratiques aussi. Comment on permet un bel équilibre entre les personnes qui sont présentes dans l'université et les différents groupes culturels qui sont intégrés dans cette université?
Alors après ça, ce sont effectivement des considérations extrêmement sensibles. Donc il faut aborder avec beaucoup de précautions. Il en va du respect des cultures comme de la laïcité. C'est-à-dire que l'université, puisqu'elle accueille précisément des publics, des étudiants, des enseignants, des personnels qui peuvent relever de cultures différentes, acceptent les cultures. Il ne s'agit pas de rejeter les spécificités culturelles des uns et des autres. Mais il s'agit aussi de faire en sorte que ces spécificités ne se convertissent pas ou ne se traduisent pas par des replis identitaires, par exemple. L'université ne refusera pas les croyances ou les convictions religieuses des uns et des autres. Après, il s'agit simplement de faire en sorte que, puisque l'université est un endroit neutre, que le respect de ses croyances, de ses cultures, de ses identités des uns et des autres ne fasse pas obstacle à ce qui est la vocation première de l'université. C'est quand même que les gens vivent ensemble, qu'ils travaillent ensemble, que l'université soit un cadre de partage de valeurs universelles. Donc ce qui est universel va, me semble-t-il, devoir prédominer par rapport à ce qui est particulier et de surcroît par rapport à ce qui pourrait être particulariste.
Voilà, et bien sûr, l'idée, c'est de se projeter dans un avenir commun. C'est un peu l'idée.
Tout à fait. Tout
et
à
de fait. Donner des chances d'un meilleur équilibre que ce que l'on constate actuellement.
Et tout est fait pour cela. Donc, les étudiants s'organisent dans le cadre de l'université, c'est rarement sur des bases communautaire, c'est d'abord en tant qu'étudiant. Quand les personnels travaillent ensemble, je pense qu'il arrive un moment où ils oublient leurs origines. Le but, c'est pas de venir à l'université et y importer des particularismes, encore une fois. Il y a des objectifs communs. Alors, ces objectifs, ils peuvent être pratiques. C'est simplement des objectifs professionnels. C'est de faire tourner la boutique, excuse-moi de cette expression un peu triviale, mais c'est aussi de partager des valeurs. Je suis moi-même, je préfère autant le dire, d'origine étrangère. Voilà. Donc j'ai ma propre culture, mais une fois que je suis à l'université, mon combat c'est pas de nier ma culture, c'est pas de nier ce que je suis, mais ce n'est pas non plus du matin au soir de vivre suivant un particularisme culturel qui m'isolerait des autres. Personne ne me demande d'ailleurs de me renier. Mais je n'éprouve pas, en tout cas à titre personnel, le besoin d'une affirmation culturelle spécifique par rapport à qui que ce soit et surtout pas contre qui que ce soit.
Alors c'est vrai que quand on va à l'étranger, on devient étranger. Mmh. Et à partir de là, on est heureux d'avoir une certaine réciprocité dans ce qu'on souhaiterait que le monde soit équilibré avec un accueil de l'autre, de l'étranger. Mmh. Le racisme, on peut peut-être parfois l'assimiler à une certaine forme de peur de l'étranger ou pas?
L'ancien président du Sénégal, Léopold Senghor, disait que les racistes sont des gens qui se trompent de colère. Je trouve que c'est pas mal vu. C'est des gens qui se trompent de colère, c'est-à-dire que c'est souvent des... Alors, il y a quelquefois de l'ignorance. Parce qu'il y a des racistes qui s'ignorent. Moi, j'ai un peu tendance à le croire, même si pour certains, c'est déjà excusé que de vouloir expliquer ou d'être. Il ne s'agit pas d'être indulgent. Quelquefois, les gens sont racistes simplement parce qu'ils ne connaissent pas. Quelquefois, mais même toujours, quand dans le racisme, il y a forcément des préjugés. Dans le racisme, alors après. Il y a peut-être un racisme conscient, militant, ça c'est autre chose. Quelqu'un qui appartient à une formation politique, qui adhère à des thèses racistes et qui les développe. Moi, je Bon, voilà, ça c'est quand même une dimension, me semble-t-il, beaucoup plus, entre guillemets, élaborée du racisme. Mais le plus souvent, quand on discute avec des gens qui tiennent des propos racistes, en tout cas dans un environnement professionnel, que l'on creuse un peu le discours, qu'on le suive d'un peu plus près, on se rend compte qu'il y a souvent cumulé l'ignorance. Alors quelquefois, comme disait le président Senghor, une forme de colère, qui peut se traduire par des discours du style ben, « les étrangers, ils ont tous les droits ». Et très souvent, ou les étudiants étrangers par exemple, ils ont tous les droits. Quand on discute avec les personnes, ils me disent « mais quel type de droit ?» et qu'on les entend développer les droits en question, on se rend compte que c'est quelque chose de totalement fantasmé. Les droits auxquels ils pensent ne sont pas... n'existe pas, en tout cas que les étudiants dont ils parlent ne bénéficient pas de ces droits-là. Mais alors le racisme, de manière plus globale, ben ça je ne suis pas d'une grande originalité en disant cela, ça repose quand même principalement sur la peur de l'autre, sur la méconnaissance de l'autre, et quelquefois, que le dernier élément, c'est simplement sur une forme d'aigreur. C'est quelquefois des problèmes que l'on a soi-même, on est déclassé, on ne trouve pas sa propre place dans la société, on se sent menacé. Moi j'avais lu un article très très intéressant dans le Monde diplomatique, c'était pas en France mais aux États-Unis, sur une description mais typique de l'électeur trumpien. C'est véritablement le c'est l'américaine base. Je parle pas des idéologues comme le monsieur de Breitbart News là, qui vient d'ailleurs donner des leçons au Front National en France. Je parle vraiment de l'américain moyen. C'est quelqu'un qui est au chômage, qui a peur que ben les étrangers, qu'ils soient mexicains ou même simplement des américains non blancs, comme on dit là-bas, lui prennent sa place, qui a peur de réussir moins que d'autres, ainsi de suite. Donc ça, tout ça décrit un profil type de l'électeur trumpien, raciste, qui s'identifie quand même à quelqu'un, là je suis peut-être un peu hors champ, qui voit dans un milliardaire le meilleur porte-parole de sa cause, alors que socialement, économiquement, c'est quelqu'un qui est un milieu de ce qu'il est, de ce qu'il vit au quotidien. Voilà.
Alors, dans les phénomènes racistes, dans les organisations racistes, souvent on voit des gens qui profitent de la faiblesse d'autres, avec de la manipulation, avec de la désinformation. On parle parfois de complotisme. Là, on peut peut-être relativiser aussi ce mot. On a tendance à considérer beaucoup de choses qui critiquent quoi que ce soit comme complotisme. Mmh. Donc voilà, faire la part des choses n'est pas toujours facile.
Pas nécessairement. Ça s'appelle la pédagogie. C'est faire œuvre de pédagogie. Et pour en revenir au cadre de l'université, les actions, la semaine qui du 18 au 24, c'est une semaine d'éducation. Je pense que le volet éducation, alors ça peut peut-être paraître un peu prétentieux de vouloir éduquer les gens ou un peu condescendant, mais il y a une dimension sensibilisation, une dimension explication. Et d'ailleurs, dans le cadre de l'UDL, nous allons animer des ateliers de sensibilisation des personnels aux discriminations de manière générale, et notamment aux discriminations basées sur racistes et antisémites. Ce qui ne veut pas dire, je tiens quand même à le préciser, que nous présumons que les personnels sont racistes et antisémites. Bien entendu que non. Mais c'est simplement appeler l'attention des personnels sur, d'abord, ce que sont ces discriminations, sur le fait que ces discriminations sont définies par la loi et donc sanctionnées par la loi, sur les formes d'expression de ces discriminations et sur la manière au quotidien de les prévenir, notamment lorsqu'ils sont en relation avec des étudiants d'origine étrangère, pour ce qui est de la discrimination basée sur les origines, puis dans le discours de tous les jours, parce que bon, tu n'es pas sans savoir, René, que quand on dit maintenant que le discours est décomplexé, ça veut dire qu'on dit quand même très facilement, quelquefois sous la forme de la blague, et il y a des études qui ont été faites sur le développement de blagues racistes qui ignorent dont les auteurs ignorent qu'elles sont racistes ou feignent d'ignorer qu'elle est raciste, parce que simplement, c'est des discours qui sont passés sous la forme de blagues, de plaisanteries. On connaît tous, je ne veux pas citer de nom, ici sur Radio Campus, un humoriste, en tout cas présenté comme tel, célèbre, qui, dans toute la carrière, est quand même basé sur des sketchs à base stéréotypée, on va dire, sur telle ou telle ethnie, sur telle ou telle origine, avec des accents que l'on force, mais en même temps, les enfants, surtout les gens qui sont très jeunes, qui sont élevés à entendre ce type de discours, associent forcément les personnes concernées par ce type de discours à ce qui est dit, alors que c'est quand même une vision caricaturale des choses. Mais pour en revenir à notre sujet, oui, éducation, sensibilisation, prévention, hein, et en espérant évidemment que tout cela combiné évitera la survenue de comportements ou d'actes racistes dans la vie professionnelle et, espérons-le, dans la vie tout court, dans la vie de citoyen tout court.
Alors, on va donner trois noms qui ont leur champ, hein, qui correspondent à des problématiques peut-être un peu différentes, mais qui sont liées. La xénophobie, donc c'est la haine des autres nations,
des
étrangers. Hein. Mm-hmm. Le racisme, donc définir déjà des races, c'est déjà du racisme, on peut dire ça, parce qu'il n'y a qu'une race humaine.
Voilà, et puis je pense que la notion de race est appelée à d'ailleurs disparaître du vocabulaire, enfin de la législation française, au grand dam d'ailleurs de certains auteurs qui trouvent que c'est aussi c'est aussi nier une réalité. Je pense à un livre d'ailleurs de Pierre-André Taguieff sur cette thématique-là, en disant que c'est peut-être pas en niant la notion de race qu'on combat le mieux le racisme, parce que non pas qu'il accorde une importance particulière à la race, mais c'est vrai que ça fait débat, voilà. Donc la xénophobie, ça c'est un peu plus classique, c'est la haine de l'étranger en tant qu'étranger, encore que quelquefois la notion d'étranger et moi je me rappelle, j'étais dans une autre administration, c'est anecdotique, et j'entendais les collègues dire des collègues qui s'occupaient de la délivrance de cartes nationales d'identité, dire mais très souvent les personnes avec qui on a le plus de problèmes ce sont les étrangers. Moi, je leur faisais observer que si c'est des gens qui viennent retirer une carte nationale d'identité, c'est que par définition ce ne sont pas des étrangers, ce sont des nationaux. Sauf que là, on voyait bien que la confusion, elle portait sur le fait que ce sont des personnes qui peuvent être d'origine ou qui peuvent avoir une ascendance étrangère, mais juridiquement, ce ne sont pas des étrangers. Et je pense que l'ancienne directrice générale de l'enseignement supérieur, Madame Bonafous, avait écrit un livre justement sur la sémantique, sur le vocabulaire, sur les mots et sur le sens des mots et le fait que quelquefois on avait de ces mots-là une interprétation ou quelquefois une compréhension seulement assez approximative. On ne peut pas dire de quelqu'un qui a la carte nationale d'identité qu'il est étranger. Il peut être d'origine immigrée, il peut être immigré lui-même, naturalisé, mais il n'est plus étranger à partir du moment où il a accédé à la nationalité française.
Alors le troisième mot que je voulais évoquer, c'est antisémitisme. Là, on est dans un champ, bien sûr, on est dans le racisme, mais l'antisémitisme a ses caractéristiques propres, on va dire, et aussi son histoire, son lourd passé.
Tout à fait. Et alors, certains pense souhaitable de spécifier par rapport au racisme de manière générale l'antisémitisme du fait précisément de ce que tu dis. Donc il y a une singularité effectivement de l'antisémitisme compte tenu de ce que tu dis. Donc effectivement le passé, c'est un mot assez particulier. Et alors après on trouvera toujours des gens qui disent oui mais quand on dit antisémitisme ça veut dire... J'avais lu un petit bouquin qui est très très bien fait, qui était dirigé par Antoine Spire. Sur des définitions. Et alors il était expliqué qu'il y avait eu un débat sur la définition de l'antisémitisme. Et la définition qui a été trouvée est assez simple et même assez déconcertante. L'antisémitisme, c'est l'hostilité à l'égard des Juifs. C'est pas ce qu'on attendait. Alors c'est au moins une définition extrêmement simple. Alors après, il y a tout un débat sur le fait de savoir qui est sémite. Donc les peuples sémites, effectivement, historiquement, ça peut être beaucoup plus large que que le peuple juif, mais l'antisémitisme en tant que tel dont on parle, en tout cas, cet antisémitisme-là vise les juifs en tant que juifs, de la même manière que le racisme va viser telle race en tant que telle. C'est-à-dire que ce qu'on va détester chez la personne que l'on déteste, c'est pas ce qu'elle fait, c'est simplement ce qu'elle est. Et c'est en cela d'ailleurs que ce comportement est tout à fait condamnable et tout à fait inacceptable. Et moi je recommande la lecture de petits ouvrages qui sortent et qui me paraissent avoir une vertu pédagogique extrêmement importante sur simplement la définition des mots, hein. Et je trouve que ça permet de se prémunir contre un certain nombre d'incompréhensions ou d'approximations.
Voilà, donc Ahmed Oubal, on va dans quelques instants écouter un témoignage. C'est le témoignage d'une personne qui a connu les concentrations, notamment celui de Birkenau. Et donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré là-bas il y a 10 ans et que j'ai enregistré dans le bus qui nous conduisait à Birkenau, Auschwitz-Birkenau. Mmh. Ce sont deux camps qui sont de proximité, on va dire, hein. Et donc ça complétera un petit peu notre immersion dans ces problèmes avec les horreurs qui ont parfois été impressionnante et traumatisante pour beaucoup de gens, mmh, et dont il y a beaucoup de séquelles et qu'on ne voudrait évidemment pas revivre. Mmh. Merci pour cette participation. On peut rappeler peut-être quelques points particuliers des événements qui auront lieu sur l'université auxquels le public est appelé à venir visiter.
Donc, alors, cette semaine du 18 au 26 mars, alors les différentes manifestations au niveau de l'Université de Lille, c'est par exemple, alors c'est pas des choses qu'on peut visiter, mais dans ce cadre de ces manifestations, il y a des cours qui vont être organisés sur cette thématique-là, à l'initiative de la référente racisme, antisémitisme et le côté enseignant, puisque l'Université de Lille a choisi et c'est donc d'avoir un référent pour les personnels BIATS, hein, et alors juste pour dire un mot très bref, je ne sais pas si on a le temps, et que les référents ont été institués dans les universités à la demande du ministère, donc précisément pour être un peu les interlocuteurs sur les thématiques du racisme et de l'antisémitisme. Donc à l'Université de Lille, on a un référent pour les personnels administratifs et techniques, donc c'est moi, et un référent pour les personnels enseignants, c'est Madame Martine Benoît. Et Madame Martine Benoît organise justement, dans le cadre de la semaine, des cours, hein, donc a demandé à ses collègues enseignants de rethématiser les cours autour de cette thématique-là. Alors la deuxième manifestation, donc c'est l'action de sensibilisation que nous allons mener en direction des personnels administratifs, donc sur les thématiques des discriminations en général, en insistant peut-être un peu plus sur tout ce qui est racisme et antisémitisme. Alors à côté de ça, évidemment, les référents ont leur mission traditionnelle, hein, dans le cas des universités, c'est de veiller à ce que ne développe pas au sein de l'université des discours et des pratiques racistes ou antisémites. Mais si, par malheur, ces choses-là advenaient, d'être les interlocuteurs de personnes qui en sont victimes pour, avec la direction de l'université, trouver les mesures appropriées pour lutter contre ce type de dérapage.
Voilà, donc c'est la semaine prochaine, mais sinon c'est bien sûr toute l'année. Merci Ahmed Oubal, on va laisser la parole à donc cette personne qui s'appelle Ginette Kolinka et qui est un des derniers témoins, on peut dire, de ces camps qui ont été, on va dire, éparpillés un peu partout. Donc là, pour le coup, Auschwitz-Birkenau, c'est en Pologne, mais c'était un camp allemand en Pologne. Et on essaie d'être prudent et de ne pas tout mélanger aussi. Tout et il y avait également des camps allemands en France, tout on peut fait. Dire ça. Voilà. Donc voilà pour cette personne qui a vécu ces moments atroces. D'ailleurs, elle en a gardé des séquelles, c'est-à-dire une certaine forme de froideur et de distance par rapport à tout ce qu'elle a vécu là-bas, qui lui ont permis de résister et de voir les choses un peu du dessus. Sinon, elle aurait succombé, bien sûr, à tout ce qu'elle a vécu. On va l'entendre, elle l'explique d'ailleurs très bien. Merci, Amadou.
Merci à toi, René.